Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, la junte au pouvoir a précisé dimanche les conditions de l'évacuation sanitaire samedi soir aux Émirats Arabes Unis de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta pour un délai maximum de 3 mois en accord avec les États ouest-africains. Selon le CNSP, il s'agit d'une durée maximum d'un mois extensible uniquement sur avis médical et qui ne pourrait excéder 3 mois, auquel cas le suivi médical se fera au Mali. Les derniers développements au Mali dans un instant avec notre correspondant Kassim Traoré. En Guinée, l'ancien premier ministre et principal opposant du pays, Seloud Ellen Diallo, a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle du 18 octobre. Nous y reviendrons également avec Claire Morin-Gibourg et notre correspondant sur place, Zakaria Camara. Et au Burkina Faso, Kadré Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de l'ex-président Blaise Compaoré, a été investi dimanche candidat à la présidentielle du 29 novembre par son parti Agir Ensemble pour le Burkina Faso, un pays entraîné depuis 5 ans dans une spirale de violence djihadiste. Ses partisans évoquent régulièrement l'ère de Blaise Compaoré, désormais idéalisée malgré l'insurrection populaire qu'il a renversée en 2014, après 27 ans au pouvoir. Monsieur Ouédraogo fera notamment face au président Roch Marc Christian Kabore et au chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. En République centrafricaine, les évêques du pays ont vivement dénoncé la mainmise des groupes armés qui ravagent le pays dans une lettre publiée dimanche alors qu'approchent les élections prévues en décembre. La Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. La signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 n'a pas permis de ramener la sécurité dans une grande partie du territoire. Au Rwanda, le président Paul Kagame a affirmé dimanche que Paul Rusesabagina était revenu de son plein gré dans ce pays avant son arrestation, niant ainsi des accusations de sa famille selon lesquelles le héros du film Hôtel Rwanda aurait été kidnappé à l'étranger. Détracteur de longue date du président Kagame, Paul Rusesabagina est apparu lundi à Kigali menotté et exhibé par la police qui l'accuse d'avoir financé et créé des groupes terroristes déterminés à renverser le pouvoir à Kigali. En Tunisie, un membre de la garde nationale, c'est-à-dire de la gendarmerie, a été tué dimanche matin dans une station balnéaire de l'Est au cours d'une attaque terroriste et 3 assaillants ont été abattus, a annoncé le porte-parole de la garde nationale. L'Inde est devenue lundi le 2e pays du monde comptant le plus de cas de coronavirus après les États-Unis, son bilan ayant dépassé celui du Brésil selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de données officielles. L'Inde dénombre 4,2 millions d'infections depuis le début de la pandémie, selon le ministère indien de la Santé, contre 4,12 millions au Brésil et 6,25 millions aux États-Unis. La pandémie a fait au moins 880 396 morts dans le monde depuis fin décembre, toujours selon le décompte de l'AFP. Le Royaume-Uni fait face à une poussée de COVID-19 avec près de 3000 nouveaux cas enregistrés dimanche, un niveau inédit depuis fin mai. En France, avec près de 25 000 nouveaux cas en 3 jours et des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, l'épidémie de COVID-19 continue de gagner du terrain. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. La suite de nos informations. Au Mali, alors que les Maliens se réunissaient pour les préparatifs de la concertation nationale, l'ancien président Ibeka a quitté Bamako samedi soir pour des soins aux Émirats Arabes Unis. Les participants à l'atelier de validation des termes de référence de la concertation ont demandé la révision constitutionnelle au Mali, la définition des thèmes à débattre lors de la concertation nationale prévue du 10 au 12 septembre à Bamako. Ils ont demandé que le M5-RFP soit impliqué dans l'organisation de la concertation au même degré que le CNSP. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Après un démarrage difficile, les travaux de l'atelier de validation des termes de référence pour la concertation nationale ont pu démarrer. Les cinq groupes, après leurs travaux, ont fait la synthèse en plénière. Moussa Camara, rapporteur général de l'atelier de validation.
De retenir parmi les thèmes la révision constitutionnelle. De mettre le M5-RFP au même niveau de responsabilité dans l'organisation que le Comité national pour le stabilité. De regrouper certaines causes par catégorie.
Cette démarche est une initiative du CNSP, selon son premier vice-président qui était à la clôture des travaux, colonel Malik Diaw.
Prouve combien il est important d'être en phase avec son peuple. Nous faisons note des recommandations pertinentes formulées au cours de cette première journée de concertation. J'en suis sûr qu'elles permettront une meilleure organisation de la concertation nationale en vue.
Quant à l'ancien chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, il a pu quitter Bamako. Ce voyage a été organisé suite à la demande officielle du CNSP aux autorités émiraties après des concertations avec la CEDEAO. Abu Dhabi a mis à disposition un avion qui a décollé de Bamako Senou le samedi à 20h19. Ibeka est accompagné par son épouse et son médecin. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, Sélou Dalein Diallo, ancien premier ministre et principal opposant du pays, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 octobre, scrutin qui verra le président sortant Alpha Condé briguer un troisième mandat. Claire Morin-Gibourg.
J'accepte de représenter notre parti à l'élection présidentielle, a déclaré Sélou Dalein Diallo lors d'une réunion hier de l'Union des forces démocratiques de Guinée dans la capitale Conakry après avoir accepté sa nomination. Notre combat doit continuer, a-t-il ajouté. À 68 ans, c'est la troisième fois que Sélou Dalein Diallo affrontera Alpha Condé lors d'une élection présidentielle. Le président sortant et ancien opposant historique a remporté les scrutins en 2010 et 2015. Après des mois d'ambiguïté, Alpha Condé a confirmé sa candidature à un troisième mandat la semaine dernière. La nouvelle constitution guinéenne, comme la précédente, limite le nombre des mandats présidentiels à deux. Mais les partisans d'Alpha Condé affirment que ce changement de loi fondamentale remet les compteurs à zéro. Huitième candidat déclaré pour la présidentielle, Sélou Dalein Diallo affrontera également les anciens ministres Ousmane Kaba, Abdoul Kabele Kamara et Ousmane Doré.
Le bras de fer germano-russe autour de l'opposant russe Alexei Navalny s'est durci dimanche. Berlin a donné un ultimatum de quelques jours pour avoir des explications sur son empoisonnement avant de possibles sanctions, tandis que Moscou accuse l'Allemagne de ne pas coopérer. Michel Joseph.
Nous allons devoir discuter d'une réponse avec nos partenaires européens, a averti hier Heiko Maas, le chef de la diplomatie allemande. Il a ajouté qu'en cas de sanctions, elles devraient être ciblées. Plus tard dans la soirée, il a ajouté qu'il serait erroné d'exclure a priori des conséquences pour le projet phare de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Europe. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a contre-attaqué en accusant Berlin de retarder le processus de l'enquête qu'elle réclame avec des pièces du dossier qui ne seraient toujours pas transmises à Moscou, selon elle. Le principal opposant russe, Alexei Navalny, est actuellement hospitalisé à Berlin. Selon le gouvernement allemand, il a été sans équivoque empoisonné en Russie lors d'une tournée électorale par un agent neurotoxique de type Novichok, conçu à l'époque soviétique à des fins militaires. L'Allemagne et les autres pays occidentaux ont exhorté Moscou à plusieurs reprises à faire la lumière sur l'empoisonnement.
Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Banque mondiale a signé un nouveau cadre de partenariat avec la République centrafricaine pour la période 2021-2025 pour notamment asseoir la légitimité de l'État et stimuler la croissance. Une allocation exceptionnelle assortie d'un budget pouvant atteindre 355 millions de dollars sont prévues sur les trois prochaines années, sous réserve que le pays poursuive son action sur la voie de la stabilisation et de la paix. Selon le Green Film Performance Index 2020, 15 pays africains figurent dans le top 50 des meilleures performances en matière d'investissement direct étranger par rapport à la taille de leur économie en 2019. Pour la première fois dans ce classement, le Togo et le Rwanda occupent respectivement les premières et deuxièmes places mondiales. Le Sénégal décroche la 7e position et la Côte d'Ivoire, la 16e place. Le thé rwandais a battu le thé kényan aux enchères à Mombasa fin août. Le kilo du pays des mille collines s'échangeait à 2,71 dollars contre 2,47 pour le kényan. D'après l'Association du commerce du thé d'Afrique de l'Est, le Kenya contribue pour les trois quarts des volumes acheminés.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Ligue des Nations dans le groupe 4 de la Ligue A. L'Espagne déroule contre l'Ukraine.
Après un nul arraché en Allemagne, la Roja s'est facilement imposée 4-0 contre l'Ukraine avec 4 points. Les Espagnols sont seuls en tête du groupe devant l'Allemagne accrochée 1-1 par la Suisse. Pour le reste, dans un match du groupe 3 de la Ligue B, la Russie s'est imposée 3-2 à Hongrie et reste seule en tête du classement. Dans le groupe 4, c'est le pays de Galles vainqueur 1-0 de la Bulgarie qui est leader avec 6 points devant la Finlande qui est allée dominer l'Irlande 1-0. Enfin, dans le groupe 3 de la Ligue C, la Slovénie a battu 1-0 la Moldavie.
En Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns est sacré champion à l'issue de la dernière journée de la première Soccer League.
Le club de Pretoria a réalisé l'un des retours les plus époustouflants de l'histoire du championnat sud-africain. Co-leader avant cette dernière journée, l'équipe entraînée par Piso Mosimane s'est offert une précieuse victoire 3-0 contre Black Leopard, profitant du coup de la contre-performance des Kaizer Chiefs 1-1 face à Baroka. Les Brésiliens, comme on les surnomme, s'offrent ainsi leur 10e titre de champion de leur histoire.
Élisée, si en Afrique du Sud tout est fini, en République démocratique du Congo, en revanche, on se prépare à reprendre les hostilités.
Exactement, Idrissa. Et la date de la reprise est prévue pour le 25 septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la Lina Foot. Il est au micro de Valdo Simbo Yamba Yamba.
Nous allons commencer. Le seul document qui donne la date fixe ou la date réelle du début du championnat, c'est le calendrier. Notre sous-commission s'attelle effectivement pour sortir un calendrier définitif de ce qui est de la première phase, la manche aller. Aussitôt sorti, aussitôt terminé, aussitôt nous allons signer. Je peux vous donner la date, nous voulons commencer effectivement le 25 septembre.
Handball enfin, le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Monde 2021 a eu lieu en Égypte.
Oui, un tirage plutôt difficile pour les représentants africains. Le Maroc retrouve l'Algérie, le Portugal et l'Islande dans le groupe F. La RDC jouera dans le groupe D, l'Argentine, le Bahreïn et le champion du monde Danemark. Le Cap-Vert affrontera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay dans le groupe A. La Tunisie évoluera dans le groupe B en compagnie de l'Espagne, du Brésil et de la Pologne. L'Angola est logée dans la poule C avec la Croatie, le Qatar et le Japon. Et puis, le pays hôte, l'Égypte, en découdra avec la Suède et la République tchèque dans la poule G. À noter que les trois premiers de chaque équipe rejoignent le tour principal disputé en quatre groupes de six équipes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'opposant Sélo Dalène Diallo a été investi dimanche candidat de l'Union des Forces Démocratiques à la présidentielle du 18 octobre. Le président sortant, Alpha Condé, lui, a déposé jeudi son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle à Conakry. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
Investi candidat du principal parti d'opposition, Sélo Dalène Diallo, participera pour la troisième fois à une élection présidentielle guinéenne. Après avoir accepté la demande de son parti, l'opposant appelle ses militants à se mobiliser contre les fraudes.
J'accepte, dis-je, votre mandat de représenter notre parti à l'élection présidentielle, à condition que vous engagez résolument et dès maintenant à voter et à sécuriser les suffrages que les Guinéens ne manqueront pas de nous accorder, et surtout de vous battre pour refuser, quoi qu'il arrive, que notre victoire nous soit volée, comme c'est si souvent le cas.
Sélo Dalène Diallo a dit vouloir se battre pour une alternance, mais il reconnaît que la tâche ne sera pas facile.
Il ne faut pas se leurrer. Avec une constitution falsifiée, un fichier électoral tronqué et taillé sur mesure, une CENI et une cour constitutionnelle totalement inféodée à Alpha Condé, la tâche ne sera pas facile. Ce n'est pas pour autant qu'il faut céder aux forces de l'abandon. La Guinée est aujourd'hui dans une situation de non-droit. Il faut obligatoirement corriger cela par un retour à un ordre constitutionnel normal. Nous le ferons ensemble.
Pour barrer la route, Alpha Condé, l'ancien Premier ministre et président de l'UFDG, invite l'opposition à former une coalition pour l'alternance.
Je voudrais inviter tous les partis politiques à se mobiliser pour ce combat. C'est un autre front, celui des urnes que l'UFDG a décidé d'ouvrir dans le cadre de la lutte que nous menons en débat depuis un an contre le troisième mandat.
Le président sortant Alpha Condé est passé devant le collège des médecins pour une visite médicale après avoir déposé son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Ces Guinéens rencontrés à Conakry ont accepté de s'exprimer au micro de la VOA.
Aujourd'hui, ils sont opposants, demain, ils sont avec le pouvoir. C'est un jeu politique. Donc, tout citoyen correct, honnête, qui aime ce pays, un patriote, qui sait que tu es patriote, tu dois beaucoup réfléchir à la situation politique de la Guinée. C'est un mandat qu'on ne devait pas accepter depuis le départ. Puisqu'on l'a accepté, la Constitution, c'est qu'on l'a ouvert la porte.
Nous sommes dans la 4e République. S'il présente sa candidature, c'est pour la première fois dans cette 4e République. Donc, ce mot 3e mandat est annulé.
Le premier tour de la présidentielle guinéenne aura lieu le 18 octobre prochain. Zakaria Kabara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Niger, au moins 71 civils non armés ont été exécutés par des militaires dans des villages de la commune d'Inates au mois de mars et avril dernier. C'est ce que révèle un rapport d'enquête publié par la Commission nationale des droits humains. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Ce qui s'est passé à Inates ne doit plus se reproduire dans notre pays.
C'est à la suite d'allégations d'exactions et d'exécutions sommaires d'une centaine de civils non armés par les forces de défense et de sécurité au mois de mars-avril dernier dans la zone d'Inates, portée à sa connaissance que la Commission nationale des droits humains, autorité administrative indépendante, a mené des investigations qui ont confirmé les dites allégations.
Tous les rescapés qu'on a entendus ont dit qu'ils étaient attachés de la même façon dont on a trouvé
les corps dans les fosses.
Tous les rescapés ont dû avoir la vie sauve que grâce à l'humanisme de certains militaires. Mais chaque fois avant de libérer, il y a toujours un militaire qui appelle quelqu'un
pour demander qu'est-ce qu'il faut faire.
Selon un rescapé en service dans la zone, un des militaires lui aurait laissé entendre qu'ils ont eu pour instruction de traquer et de tuer toute personne suspecte
dans cette semaine. Et effectivement, l'opération s'est déroulée sur une semaine. Qui a dit qu'il faut situer la responsabilité?
Le rapport d'enquête a été remis au président de la République, chef suprême des armées, et la commission, conformément à sa mission, l'a rendu public. Ali Shina Amadou Kourgueni, secrétaire général de la CNDH.
Nous avons le devoir de redevabilité envers le peuple nigérien. La commission a également un devoir de redevabilité envers la loi. Même si ça fait mal, comme on dit en latin, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et dans ces conditions, il faut dire la vérité. Et c'est la vérité que nous avons dite. Nous, nous avons fait notre partition. Il appartient maintenant à l'autorité judiciaire de faire la sienne. Le ministère de la Défense a déjà donné une suite judiciaire à l'affaire. Alors nous, nous reculons parce qu'il ne peut pas y avoir de dédoublement fonctionnel. Nous attendons de voir la suite.
Certains, dans l'opinion, ont vu à travers ce rapport de la Commission nationale des droits humains une action de sape du moral des troupes engagées sur le terrain, non rétorque son président, le professeur Khalid Ikri.
Il ne s'agit pas du tout de toucher au moral de nos FDS qui ne dorment pas à cause de nous, qui se battent tous les jours afin que nous, nous puissions dormir. Toutefois, il faudrait faire en sorte que leurs efforts ne soient pas vains. Et pour que leurs efforts ne soient pas vains, il faudrait extirper ceux qui comprennent mal la tenue d'une arme. Il faut l'orienter du côté de l'ennemi et non pas du côté de celui qui est censé être protégé.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, un jeune enseignant a lancé une initiative citoyenne sur les réseaux sociaux pour une collecte de fonds qui vise à réfectionner des salles de classe et des toilettes des établissements scolaires publics. Une action à laquelle des internautes, des donateurs et des bénévoles ont répondu favorablement, avec comme objectif actuel la réfection du lycée de Yoff près de Dakar, avant le début des examens du BFM, notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Fervent défenseur de l'environnement, Mamadou Diakhaté, plus connu sous le pseudonyme de Junior Diakhaté Ninché, était au départ d'une initiative pour la sensibilisation sur la COVID-19. Mais avec la reprise des cours en plein hivernage, son action a évolué et il est aujourd'hui au premier plan pour aider les élèves à travailler dans des conditions optimales.
On devait préparer les élèves à revenir à l'école. C'est dans cette perspective qu'on a fait le tour du Sénégal et à Dakar en particulier pour le groupe de bénévoles dont je faisais partie pour nettoyer des écoles. Et on s'est rendu compte que dans beaucoup d'écoles, les écoles n'étaient pas au top. Il y avait des soucis, soit de toilettes ou de salles de classe. C'est comme ça que c'est parti. On avait décidé de rénover des toilettes d'école. On a débuté au mois de juin à l'école élémentaire Issa Kane, où on a eu à faire des toilettes. Après, on est passé au lycée Blaise Diagne, après le lycée John Fitzgerald Kennedy, et aujourd'hui le lycée Yoff, qui était une urgence.
Pour la réfection du lycée de Yoff, Junior Diakhaté Ninché lance un défi à ses 15 000 followers de Twitter, afin qu'il l'aide à atteindre un budget dans environ 2 millions de francs CFA à travers des cotisations minimales de 100 francs. Les internautes répondent doublement présents car en plus de l'apport financier, beaucoup d'entre eux viennent participer aux travaux. Aliou Ndiaye est un étudiant qui s'est proposé comme bénévole.
Oui, je l'ai vu sur Twitter, sur le réseau social Twitter. Il y avait beaucoup de ces followers qui partageaient l'initiative et ça m'a plu. Quand même ça te donne l'impression que au moins tu es utile à la société. Tu fais quelque chose, tu rends presque la manette comme on dit. Parce que comme nous, l'État a financé nos études jusqu'à les études supérieures, donc c'est légitime, c'est normal qu'on fait un retour, quoi, un retour d'investissement en quelque sorte.
Des ouvriers ont également proposé leur service pour aider Junior Diakhaté Ninché à relever son défi et remettre en état les salles de classe. Ismaïla Tamba est l'ouvrier chef de chantier Il assure une bonne jonction entre les ouvriers professionnels et les bénévoles. Pour lui, l'état d'avancement du chantier est le résultat de l'engagement et de la solidarité des jeunes présents.
Il y a des bénévoles qui m'ont étonné en montant les portes et les fenêtres alors qu'ils sont des étudiants. Ce n'était pas évident, mais ils ont assuré pleinement. Je leur ai tout simplement montré et ils ont appliqué à la perfection. Je suis certes accompagné d'autres ouvriers, mais la majorité des gens qui travaillent sur le chantier sont des étudiants, des bricoleurs, mais avec leur détermination, ils font bien le travail. Personne n'est spécialiste de tout, mais avec le bénévolat, on essaie d'assister et d'apporter notre soutien. Grâce à ça, on a réussi tout simplement à installer tout, pratiquement.
43 établissements scolaires ont transmis une demande de réfection à Junior Diakhaté Nintché, qui en a déjà satisfait 6. Volontaire et déterminé, le jeune enseignant de 33 ans compte sur les donateurs et les bénévoles pour continuer à rendre service et aider la communauté à travers l'école. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La trypanosomiase humaine africaine ne constitue plus un problème de santé publique au Togo. L'Organisation mondiale de la santé est parvenue à cette conclusion après avoir analysé la situation épidémiologique de la maladie dans le pays sur les 20 dernières années. Dans le pays, la maladie du sommeil est vaguement connue par les jeunes. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Je ne connais pas la maladie du sommeil. Je n'en ai jamais entendu parler.
Rodrigue, à peine 22 ans, est étudiant en deuxième année d'informatique de gestion à Lomé. Il n'était pas né lorsque le Togo a connu son dernier cas de trypanosomiase humaine africaine, THA. C'est pareil pour son camarade Joël Atoum, âgé de 21 ans, qui a dû faire recours à ses connaissances antérieures pour se souvenir.
Je connais la maladie du sommeil. C'est une maladie qui serait causée par une mouche appelée mouche tétée. On nous a appris ça pour primaire. Bon, comme signe, on peut noter que la personne qui est piquée va beaucoup dormir. C'est un peu ça.
C'était en 1996 que le Togo a enregistré son dernier cas de THA, communément appelé la maladie du sommeil. Docteur Badi Kloukossi, ancien coordonnateur du programme de lutte contre la THA au Togo.
Ce qu'on constate chez les malades à un niveau donné, c'est le sommeil un peu désordonné. C'est-à-dire des gens qui peuvent passer toute la journée à dormir et dans des conditions vraiment anormales. Quelqu'un à qui on sert un plat, qui est à table et qui commence par dormir sans manger par exemple. Quelqu'un qui va au champ, qui prend sa roue pour travailler, s'asseoir et dort toute la journée. Et sans traitement approprié, la mort est inévitable.
Le Togo vient d'éliminer la THA comme problème de santé publique, le premier du genre en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reconnu que le pays a satisfait à tous les critères y afférents. Docteur Fatoumata Binta Diallo, représentante résidente de l'OMS au Togo.
Pour éliminer la trypanosomiase humaine africaine, il faut prouver qu'on n'a aucun cas autochtone, au moins durant les 10 dernières années. Au-delà, il fallait faire un suivi et ensuite présenter un dossier très bien fourni, parce qu'il faut documenter toute l'historique de la maladie depuis qu'elle a commencé dans le pays.
L'élimination de la THA comme problème de santé publique ne doit pas conduire à un relâchement, avertit l'ancien coordonnateur du programme de lutte contre la maladie, le docteur Kossi Badiklou.
Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la maladie peut revenir. Déjà dans les années 60, beaucoup de pays étaient presque à ce stade-là. C'est vrai qu'on n'avait pas défini les critères pour soumettre des dossiers, mais il y avait eu un relâchement et on a été surpris par la résurgence de cette maladie et même avoir des épidémies. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de baisser les bras.
Après cette étape de validation de l'élimination de la THA comme problème de santé publique, le Togo va travailler pour aller vers celle de la vérification de l'arrêt de la transmission de la maladie. Le dernier palier, qui est son éradication totale, concerne tous les pays endémiques, comme c'était le cas le 25 août dernier pour la poliomyélite sauvage en Afrique. Erika Ilosson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.